Bonsoir, bienvenue dans cette édition des Communes de la Presse qui vous propose des thèmes à savoir. Annonce jeudi dernier par la CENI du report à une date ultérieure de la publication des résultats provisoires des élections législatives. Actualité politique en République démocratique du Congo, dans une déclaration faite mardi dernier, Léon Kiongo Adondo, Adam Bombolé, Antipas Mboussa Nyamwisi proposent notamment la convocation par les chefs de l'État d'une table ronde nationale avant la publication définitive des résultats des élections législatives. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Benoît Kambéré, il est rédacteur en chef du journal Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Benoît Kambéré.
Bien le bonsoir Guy Maté.
Médard Mouyal Mangala, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Bonsoir Médard Mouyal Mangala.
Bonsoir Guy.
Et Gaston Mouchid, il est directeur de la radio-télévision Manika, émettant depuis la ville de Kolozi au Katanga. Bonsoir Gaston Mouchid.
Bonsoir, merci.
Report par la CENI de la publication des résultats des législatives. 3 des 11 candidats à la présidentielle proposent au chef de l'État de convoquer une table ronde nationale. Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Bonsoir. Résultat des législatives 2011, la CENI se donne 72 heures titre La Prospérité. Le quotidien rapporte que c'est pour permettre à la centrale électorale de vérifier le travail abattu par ses équipes sur le terrain. La plupart de ces équipes sont déjà rentrées selon le journal qui cite Jacques Njoli, vice-président de la CENI, qui explique qu'il était important de leur donner un minimum de temps pour faire les synthèses de leurs conclusions. Le palmarès parlant du report des résultats des législatives en RDC estime que la CENI a décidé de reculer pour mieux sauter. Avec ce report et les nouveaux éléments rapportés par l'émission de vérification, certains élus risquent d'être confondus, souligne Forum des As. Toutefois, mis devant l'impossibilité de travailler, les experts internationaux ont décidé de jeter l'éponge, titre Le Potentiel. Le Phare affirme que ces experts cherchaient à obtenir des données physiques et techniques pouvant leur permettre d'émettre des avis autorisés sur le caractère transparent ou non des résultats des scrutins législatifs nationaux du 28 novembre 2011. Ils auraient refusé, indiquent plusieurs sources citées par le journal, d'être traités comme des simples caisses d'enregistrement des chiffres précompilés et déjà publiés par le personnel de la CENI. En effet, révèle le quotidien, il était matériellement et techniquement impossible à la CENI de mettre à leur disposition son serveur central, son fichier électoral, les procès-verbaux des dépouillements des scrutins, les bulletins de vote, ainsi que les urnes plus près de 2 mois après le vote. Sur un autre registre, La Prospérité qui revient à la charge, titre à sa une, crise politique post-électorale, Kiongo, Mboussa et Bombolé proposent une table ronde nationale. Selon ces acteurs politiques congolais, l'un des objectifs de ces assises est de discuter de la problématique de la validation ou de l'invalidation des élections, ainsi que la possibilité de mettre en place un nouveau calendrier électoral. L'observateur voit les choses autrement, estimant que cette table ronde ne pourra que tourner en rond. Selon le confrère, si nous voulons vraiment asseoir la démocratie dans notre pays, nous nous devons de nous imposer un devoir. C'est lui de respecter impérativement ses règles.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse. Benoît Camber, vous êtes rédacteur en chef du journal Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi ces collectifs des organisations de défense des droits de l'homme qui ont évalué négativement la justice congolaise. Ces ONG accusent le pouvoir politique de mainmise sur l'appareil judiciaire dont l'indépendance serait, selon elles, bafouée.
Ben, écoutez, effectivement, au courant de cette semaine, en dehors de ce que Samuel a donné tout à l'heure comme revue de presse, n'est-ce pas, tous les grands titres de la revue de presse, il y a cette déclaration des ONG qui sont outillés dans la matière, composés des avocats, des juristes et des observateurs de défenseurs de droits de l'homme, ils sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé les faits toute l'année. On a reparlé du procès de Chebea, on a reparlé de tous les procès qui ont eu lieu et qui ne sont pas finis.
Les procès Yagi.
On a parlé
des procès Boteki.
Absolument, tous les procès qui ont eu lieu. Mais on a également, et ça je pense peut-être qu'on aurait pu l'épingler, on a également parlé de l'anniversaire de l'assassinat
des deux héros nationaux. Laurent Désiré Kabila
et Patrice Emery Lumumba qui sont morts à 40 ans de différence. Mais seulement, on est aussi revenu sur le fameux procès Laurent Désiré Kabila parce que ils ont parlé des innocents qui se coupissent 10 ans après, 11 ans après, dans la prison de Makala sans savoir qui a fait quoi. Il y a problème dans notre justice dans le pays.
Médar Mouyal Mangala, vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. L'autre actualité, Benoît a commencé à en parler, c'est la commémoration de l'assassinat des deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila.
C'est un problème de mémoire ou de conscience collective, c'est important qu'on puisse amener la population, qu'on puisse amener les citoyens à se souvenir de ces leaders. Mais je constate, malgré moi, qu'il y a la dimension folklorique dans la célébration de ces événements. Parce que, voyez-vous, dans un pays qui s'est donné des objectifs de reconstruction, nous sommes au mois de janvier. Le 4 janvier, on a célébré les martyrs. C'était une journée fériée. Et le 16 et le 17, c'était également des journées fériées. Et moi, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on ne peut pas prendre une autre voie pour tout en célébrant la mémoire de nos héros, mais qu'on permette à la population, parce qu'il faut finalement insérer la culture du travail. Est-ce qu'il y a la culture du travail si on commence la nouvelle année avec autant de journées fériées, surtout que cette année, le 25 décembre et le 1er janvier sont tombés un dimanche, et au lieu de les retourner le samedi, le ministre du Travail a préféré bloquer encore, j'ai dit bien, bloquer la journée du lundi qui était. Et donc je me dis, tout en saluant ça, et encore là, il faut beaucoup d'efforts, de compréhension du travail de chacun de nous. Or, sur le plan historique, beaucoup de choses sont faites, on se contente des rumeurs. Il n'y a que des politiques qui donnent un contenu au travail ou au combat mené par les. Alors je me dis, il faut retourner, permettre aux hommes de science, aux historiens, ceux qui travaillent sur la dimension collective, la conscience nationale, peut-être de prendre la parole, parce que lorsque le politique prend le dessus sur ça, il a tendance à en faire une affaire personnelle.
Benoît Caméré, apparemment vous avez un mot à ajouter.
Juste un mot, effectivement, c'est à propos de la commémoration de la mémoire de Patrice Emery Lumumba. Je voudrais, et j'insiste là-dessus, qu'il faudrait que l'histoire retienne et qu'on corrige pour la postérité que Patrice Emery Lumumba n'était pas seul. On a l'habitude d'oublier ces deux compagnons d'infortune que sont Maurice Mpolo, dont on ne parle jamais, et qui a pourtant de la famille, et Joseph Okito, qui ont été tués le même jour, mais pour des raisons politiques et surtout politiciennes. On épingle seulement Patrice Emery Lumumba, on oublie ces deux compagnons d'infortune. Je voudrais qu'on commémore leur mémoire et qu'on s'incline aussi sur ces deux héros, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui ont de la famille et qu'on oublie souvent.
Merci Gaston Mouchid. Vous êtes directeur de la radio-télévision Manika, émettant depuis la ville de Kolwezi au Katanga. Et quelle est l'actualité à la une dans cette ville de Kolwezi?
L'actualité à Kolwezi est beaucoup plus occupée par des érosions qui se sont déclarées dans une cité locale qui s'appelle Kasunu. Érosion qui a emporté une dizaine de maisons et a créé pas mal de bouleversements des populations vivant tout autour. Mais il faut noter que le gouvernement provincial est déjà absent pour pouvoir lutter contre cette érosion qui est un sinistre dans la ville.
Merci. Notre premier thème de ce soir, annonce jeudi dernier par la Commission électorale nationale indépendante du report à une date ultérieure de la publication des résultats provisoires des élections législatives. Il faut encore donner du temps à la CENI pour examiner certaines plaintes et requêtes reçues de la plupart des candidats et observateurs sur la compilation des résultats des élections législatives. Pour ce faire, la Commission électorale nationale indépendante a besoin de plus de sérénité. Voilà qui justifie Ainsi, selon le vice-président de la CENI, le report de la publication des résultats annoncés mercredi dernier, mais qui n'a pas eu lieu. S'agissant des plis disparus des quatre circonscriptions électorales de certaines provinces, la CENI dit attendre le rapport d'enquête de ses équipes dépêchées sur terrain. Et ce n'est qu'après qu'elle pourra voir s'il y a des corrections à y apporter. Le professeur Javioli l'a dit au téléphone de Jeff Ngoi.
Nous avons analysé certaines plaintes et il y a une série de décisions et des recommandations qui ont été faites et qui doivent être validées par le bureau. La plupart des équipes sont rentrées, les dernières sont arrivées hier dans l'après-midi. Il est important qu'on puisse leur donner un minimum de temps pour faire le synthèse de leurs conclusions. Synthèse qui seront alors examinées par le bureau aujourd'hui. Et si nous ne terminons pas, nous allons continuer afin d'éventuellement de trouver des mesures correctives là où il faut et d'intégrer des éléments dans l'évaluation qui va avoir lieu.
Mais jusqu'à quand?
Je crois que l'une des difficultés majeures que nous avons eues dans le traitement ou dans la gestion de ces processus, c'est les facteurs temps. Donc nous demandons aux uns et aux autres un minimum de patience pour que nous puissions avoir 48 heures à 72 heures de vérification des travaux faits sur le terrain.
Benoît Cabéré, ces reports n'étaient-ils pas prévisibles?
Évidemment, parce que d'abord, la date qui était prévue, c'était le vendredi 13. Le vendredi 13, on nous a raconté, rabâché les oreilles avec plusieurs raisons, n'est-ce pas? Il y avait certes la visite des observateurs qui devaient venir, il y avait, mais avec tout le cafouillage qu'on a vu dans les provinces, notamment avec les plaintes
des différents candidats,
eh ben, j'en sais quelque chose, n'est-ce pas? Je reviens de deux Kivu, j'ai été à Uvira, j'ai été à Bukavu, j'ai été à Beni, j'ai été à Butembo, j'ai été à Goma, eh ben, les plaintes fusent de partout, j'ai été à Massissi, c'est pas croyable, et c'est la même image à travers tout le pays. Eh ben, c'était tout à fait prévisible, parce qu'on annonçait pour le 13. Autant la CENI était pressée de publier les résultats des présidentielles dans les conditions que nous connaissons, autant elle traîne les pieds avec tout ce qu'on a vu comme cafouillage. Il y a même qui ont parlé de bouillabaisse électorale. On n'a jamais vu ça nulle part au monde, n'est-ce pas? Et même qu'il y a eu un professeur d'université qui est venu à Kinshasa tout simplement pour faire un livre sur tout le cafouillage électoral qu'on a vu. C'est incroyable. C'était prévu pour le vendredi 13. Même ce vendredi 13, ce n'était pas annoncé. On l'a annoncé pour mercredi dernier. Le plus officiellement du monde, tous les journalistes étaient j'étais même à la CNI pour attendre cette publication. On nous dira non, il faut attendre l'après-midi. L'après-midi, on nous dira qu'il faut attendre le soir après le journal télévisé de la RTNC. Et finalement, on nous annoncera que non, il n'y aura pas publication. Et là, même si on nous donne 48 à 72 heures à écouter le vice-président Nzoli, c'est curieux d'ailleurs ces jours-ci, on n'entend plus que lui. Le président lui-même, on ne l'entend plus. Ce serait bien qu'on entende aujourd'hui le président Ngoï Moulunda. On ne l'entend plus. On n'entend plus que le professeur Jacques Njoli, qui passe même pour être le rapporteur maintenant. Même le rapporteur de la CENI, on ne l'entend plus. Il n'y a que Jacques Njoli qui est là pour recevoir tous les coups qui viennent de partout et répondre à toutes les questions qu'on est en train de poser. Mais c'est quelque chose, quelque part, ne va pas à la CENI. Il faudrait qu'on se le dise.
Médard Mouyal Mangala, le vice-président de la CENI, le professeur Jacques Djoli, pense qu'il faut encore donner du temps à cette institution pour examiner certaines plaintes et requêtes. Au regard de l'énormité du travail qu'elle a à faire, cette CENI, est-ce qu'elle n'a pas raison lorsqu'elle demande du temps supplémentaire?
Effectivement, la CENI a raison de demander du temps supplémentaire. Mais évidemment, il faut comprendre le contexte dans lequel le bureau est en train de travailler. Il y a eu des critiques qui fusent de partout. Maintenant, on a le souci de vouloir améliorer l'environnement du travail, refaire les choses. Mais en réalité, on donne du travail supplémentaire au bureau de la CENI. Parce que tout ce travail devait être fait en amont, c'est-à-dire au niveau de CELSER, tous les gens qu'on a recrutés au niveau provincial, au niveau des circonscriptions, en réalité, on a l'impression que ces gens-là n'ont pas fait leur travail. Mais aujourd'hui, le bureau est obligé de courir pour sauver la facette, et ce qui est dangereux, parce qu'en fait, il y a des critiques qui considèrent que le bureau est en train de vouloir faire le travail de la Cour suprême de justice en voulant régler un certain nombre de conflits. Donc on pouvait prendre carrément toutes les plaintes, les transférer à la Cour suprême de justice. Mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de dégâts provoqués par des citoyens congolais à gauche et à droite, le bureau tente de sauver ce qu'on peut sauver avant de se tourner vers la Cour suprême de justice.
Gaston Mouchid, il faut du temps supplémentaire à la CENI. En d'autres termes, l'État n'est-il pas l'une des exigences pour que la transparence soit démise?
Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Pour moi, je trouve que si aujourd'hui ils peuvent retarder encore, question de vérifier pour éviter qu'il y ait un peu plus de plaintes, et moi je ne veux pas les en vouloir, mais au lieu de se précipiter de sorte à ce que nous ayons les résultats à la date prévue, mais qu'il y ait plusieurs revendications, plusieurs contestations susceptibles de mettre en branle les processus qui est déjà en équilibre instable, moi je trouve qu'il faut pour la CENI du temps. Et si c'est le temps qu'il faut, il faut lui donner le temps. Mais pourvu que les travaux soient sérieux, qu'il vérifie, qu'il contre-vérifie, pour ne pas tout rejeter sur la Cour suprême, qui aura aussi du boulot parce qu'il y a déjà des parts et d'autres, des contestations, il faudra peut-être éviter le plus de contestations possibles. Même si on ne peut pas faire 100% de réussite, mais qu'on fasse quand même quelque chose qui mette tout le monde d'accord que d'avoir un peu plus de protestations. Pour moi, la CENI a demandé qu'on lui donne du temps, donne-lui du temps pour pouvoir terminer les travaux qu'il a commencé.
Benoît Cambéré, l'on parle aussi de ces plis qui auraient disparu. On parle des plis des 4 circonscriptions électorales de certaines provinces. Faut-il proposer quoi dans les provinces où les plis ont disparu?
D'abord, c'est inimaginable. Comment on peut expliquer qu'il y a des plis qui ont disparu? Heureusement qu'ils ne donnent même pas les endroits où ces plis ont disparu. Parce que chaque pli devait avoir 5 copies. À supposer qu'une copie disparaisse. Et où est la copie qui a été envoyée à la Cour suprême? Parce que la Cour suprême avait droit à une copie partout. Où sont les copies des témoins? Où sont les copies des centres de compilation provinciale? Où sont les copies qu'on a envoyées au bureau de la CENI? Arrêtons! On peut avoir détruit une copie, mais on ne peut pas détruire toutes les copies. Et comment expliquer que comme ça, autant de copies disparaissent parce que, c'est vrai, il y a eu peut-être de violence à gauche et à droite. Cela dénote tout simplement de la désorganisation.
Et qu'est-ce que vous proposerez pour les provinces où les plis ont disparu?
Qu'on refasse les élections dans ces provinces. Il n'y a pas 1000 solutions. Et si on est sûr que ça s'est passé comme ça s'est passé, quelqu'un qui est sûr d'avoir gagné, n'est-ce pas, il ne peut pas avoir peur qu'on reprenne les élections et que sa victoire soit confirmée. Mais maintenant que les gens disent non, il ne faut pas, c'est là qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi on ne peut pas recourir aux copies qu'on a demain aux témoins? Ça peut résoudre le problème. On a même parlé des plis qui ont disparu à Kinshasa. Soyons sérieux. Parce qu'à Kinshasa, au moins, les gens savaient qui était élu dès le lendemain en voyant les listes qui étaient affichées, comme partout ailleurs. Mais pourquoi on ne peut pas recourir? Parce que c'était chaque fois en 5 copies. Pourquoi on ne peut pas recourir aux autres copies quand une copie a disparu? C'est là que quelque part, quelque chose ne va pas.
Médard Mbuyal Mangala, beaucoup a été dit au sujet des experts, des travaux des experts internationaux, mais finalement, on ne sait pas ce qu'ils sont venus faire parce que même la CENI dit n'avoir pas travaillé avec ces experts internationaux et ils sont même partis sans avoir fait leur rapport. Comment vous analysez cette situation?
L'arrivée des experts était attendue dans un contexte où on avait déjà identifié un certain nombre d'incohérences au niveau national. Et puisqu'il faut travailler pour l'amélioration de l'image, sauver la face du travail qui était en train de suivre, la CENI a accepté que les experts arrivent. Mais on le savait que dès lors que la CENI avait déjà embranché le processus de publication des résultats provisoires partiels. Alors, donc, la CENI ne pouvait plus arrêter le processus parce que finalement, elle recevait aussi la pression de la part des candidats qui se considéraient déjà comme ayant été élus. Et donc, les experts internationaux devaient aussi s'inscrire dans la logique qui était déjà sur place. Mais dans l'entretemps, demander à la CENI de stopper le travail, voilà toutes les contraintes auxquelles on est exposé parce que finalement, 2 mois d'attente après l'organisation des législatives au niveau national, ça pose le problème et tous les Malais en ont profité, ceux qui avaient perdu des élections pour se positionner.
Et donc la présence de ces experts internationaux n'était plus opportune.
Bon, ça dépend. La première idée, lorsque la CENI considère qu'elle n'a pas des choses à cacher, et donc elle ouvrait toutes les portes aux experts.
Malheureusement, elle n'a pas assez communiqué. Absolument. Au sujet du travail de ces experts internationaux.
Oui, évidemment, il faut se mettre dans la logique. Lorsqu'on est tenté de tirer sur vous, à gauche, à droite, c'était une catastrophe électorale, c'était mal fait, alors dis non. Toute personne de bonne foi disposée à pouvoir accompagner la CENI, on est disposé. Je considère cela comme les propos ou le discours qui a été à la base d'acceptation des experts internationaux. Mais malheureusement, le travail de la CENI avait déjà commencé. Parce que pour mieux comprendre le processus, il faut aussi le prendre au début. Vous ne pouvez pas, même au-delà de votre expertise, prendre les choses au milieu et vous n'allez pas vous retrouver. C'est comme une dissertation doctorale ou de mémoire. N'importe quel processus, il faut toujours commencer par le début. Or, les résultats sont déjà connus. Dès que vous arrivez au milieu, et vous allez demander à la CENI, attendez-nous, nous allons encore commencer depuis la révision des fichiers électoraux, et ça produirait du retard qu'on est en train de déplorer jusqu'aujourd'hui.
Gaston Mouchid, le travail de la CENI a été fustigé par beaucoup de gens. Et finalement, les responsabilités ne sont-elles pas partagées, hein? On se rappelle les pressions incessantes exercées par la classe politique à la CENI pour que celle-ci puisse organiser les élections le 28 novembre dernier, et donc cette CENI s'est sentie dans l'obligation de se conformer à la volonté de cette classe politique. En d'autres termes, cette classe politique ne s'est-elle pas elle-même piégée?
C'est le cas de le dire. Vous savez que la CENI a été installée en juillet 2010 et qu'il fallait, dans les quelques mois qui suivaient, organiser ces élections. Moi, je suis de l'avis comme toi que les responsabilités sont partagées. Benoît fustigeait tout à l'heure la disparition de Pli. Et ce sont les agents de la FMI qui se battaient dans les différents bureaux. Et ce sont les agents de la FMI qui brûlaient les bureaux. Parce que vous savez fort bien que moi, qu'il y a eu des Pli qui ont disparu au Katanga, à Mbujimayi, à Kananga, même des brutalités à Kinshasa et ailleurs. Et tout ça, c'est un problème populaire. Donc il faut dire aussi que la population n'a pas facilité à la CENI de faire bien son travail. Ça, c'est d'une part. De l'autre, il y a aussi les politiques et les gouvernements de la République démocratique du Congo qui n'ont pas facilité la tâche à la CENI. Là-dedans, il faut aussi dire que la CENI n'est pas clean du tout. Elle doit aussi faire de sorte que, dans un environnement de doute, dans un environnement de suspicion, faire de sorte que les gens aient les résultats dans le délai. Parce que finalement, ce calendrier n'a pas été imposé, c'est nous qui a proposé ce calendrier-là. Donc il avait les devoirs, après avoir reporté une fois. Quand on reporte une fois, deux, trois, quatre fois, ça commence à devenir très suspicieux. Mangala l'a dit tout à l'heure, les experts, pour moi, ça ne représente rien. Les experts internationaux, est-ce que vous pensez que quand ils viendraient au milieu du processus, ils donneraient quoi comme résultat? On a fait pas mal d'opérations, la révision, on a fait les élections, ils n'étaient pas là, la compilation commençait déjà à se faire. Ils sont venus au milieu d'une compilation des élections qui ont été en leur absence. Est-ce qu'il fallait attendre grand-chose de ces experts-là? Moi, je dis non. Il fallait continuer la compilation et essayer de faire de sorte qu'il y ait des vérifications sérieuses et de donner les résultats et les promulguer au moment opportun.
Benoît Gambéré, la classe politique qui aujourd'hui fustige le travail de la CENI, elle n'est pas à la base de ces chaos que tout le monde est en train de fustiger aujourd'hui.
Guy Maté, je vais répondre à votre question, mais je voudrais quand même, pour nos auditeurs et pour l'entendement, corriger une chose que notre confrère Mouchid vient de dire. La CENI n'a pas été mise en place en juillet 2010. En juillet 2010, c'est monsieur l'abbé Malumalu qui était encore là. C'est en mars 2011.
Voilà.
Hein, c'est pour dire encore qu'on a réduit le... Mm-hmm. Bon, effectivement, pour revenir à votre question, ainsi donc, la CENI qui a été mise en branle en mars 2011...
Voilà.
La classe politique y est pour beaucoup, et surtout la mouvance présidentielle.
Mais il n'y a pas que la mouvance présidentielle, il y a aussi l'opposition qui disait...
Attends, j'y arrive pour la mise en place du bureau de la CENI. Qu'est-ce que la mouvance présidentielle n'a pas fait pour que Il ne faut pas qu'on oublie les faits. Qu'est-ce que la mouvance présidentielle n'a pas fait pour que Joly ne siège pas au bureau? On a perdu combien de temps? Parce qu'ils ne voulaient pas voir Joly dans le bureau pour mille et un prétextes.
Et qu'est-ce que l'opposition n'a pas fait pour que la CENI organise les élections le 28 novembre dernier?
Absolument. L'opposition a tout fait pour que, effectivement, le 6, on ait eu à organiser les élections. Mais ce n'est pas une raison pour que tous les péchés d'Israël tombent sur... Il faut voir le gouvernement qui devait donner l'argent. Est-ce qu'il a donné l'argent à temps? La CEI sous Malou Malou, elle a travaillé avec quel argent? On a voté des budgets qui n'ont jamais été exécutés. Cela, ce n'est pas préparer les élections. Une élection se prépare quand l'autre est finie. Les élections actuelles devaient être préparées depuis 2006. On avait voté des budgets qu'on n'a jamais donné. Malou Malou vit encore. On peut lui poser la question. On a eu combien de grèves à la CEI parce que l'argent n'arrivait pas? C'est ça, préparer les élections. Ce n'est pas donner l'argent en dernière minute pour des raisons évidentes, finalement.
Et maintenant que les dés sont jetés, que faut-il faire maintenant?
Ben écoutez, il faut, je crois, comme beaucoup l'ont proposé, s'asseoir, s'arrêter et même tirer les conséquences de ce bourbier. Partager les responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi on n'a pas donné l'argent à temps? Est-ce que ce n'était pas calculé pour qu'on en arrive à ce cafouillage? Pourquoi, dès que Ngoï Moulunda est arrivé, tous les experts qui avaient travaillé avec l'abbé Malou Malou, on l'a déjà foutu à la porte? Ce n'est pas normal. Tout ça a retardé les choses. On a recruté de nouvelles personnes. Voilà les résultats. Maintenant, il faut tirer les conséquences de toute cette bouillabaisse, s'asseoir froidement et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensemble, pas être triomphaliste à gauche ou se plaindre à droite, mais non, se regarder dans les yeux, qui a fait quoi et qu'est-ce qu'on peut faire.
Merci, notre deuxième thème de ce soir. Actualité politique en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite mardi dernier, Léon Kengo Adondo, Adam Bombolé, Antipas Mbusa Nyamwisi, propose notamment la convocation par les chefs de l'État d'une table ronde nationale avant la publication définitive des résultats des élections législatives. Ces trois personnalités estiment que cela serait important pour tenter d'endiguer la crise politique se profilant à l'horizon en République démocratique du Congo. Ils ont fait cette demande dans une déclaration devant la presse mardi dernier à Kinshasa. Selon cette déclaration, la table ronde devrait se pencher d'une part sur la problématique de la validation ou de l'invalidation des élections présidentielles et législatives ainsi que sur les nouveaux calendriers électoraux et d'autre part sur les principes moteurs d'une réorganisation de la CENI. On écoute un extrait de cette déclaration lue par le délégué de l'UFC de Léon Kengo Adondo, le professeur Michel Bongongo, au micro de Jacques-Yves Molima.
Pour endiguer la crise politique se profilant à l'horizon et prenant sa source dans une autre crise actuelle plus profonde, celle morale et de confiance qui s'installe solidement dans la société congolaise entre le peuple et ses dirigeants. Ce chemin s'appelle le dialogue, qui seul permet à la classe politique en général et aux organisateurs du processus électoral en particulier d'avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître leurs erreurs. Face à cet appel pressant au dialogue lancé par les évêques auxquels nous souscrivons, nous proposons la convocation par le chef de l'État d'une table ronde nationale avant la publication définitive des résultats des élections législatives.
Médard Mouyal Mangala, comment vous analysez cette énième proposition?
Et je considère que dans une démocratie, les résultats ne sont pas toujours prêts à consommer. Bon, j'apprécie à sa juste valeur l'intention des acteurs politiques congolais de premier plan de dialoguer. C'est cela la démocratie. On ne peut pas construire une démocratie sans se parler. Et dès lors que les autres institutions ne sont pas encore opérationnelles, on peut passer par les médias pour suggérer maintenant à chacun de saisir cette opportunité. Quels résultats ça peut donner à l'émergence? Finalement, nous devons donner le modèle congolais de la démocratie. Quelle est la réponse que le Congolais est en train de donner aux questions majeures qui sont en train de se poser dans notre pays? Et donc, on dit, comme une proposition de réponse à la question majeure, je dis, c'est déjà un pas. Mais je me dis, le risque, finalement, souvenez-vous, lorsqu'on a modifié la Constitution, l'argument qui a été évoqué, c'était le fait d'argent. Alors, je ne vois pas qu'on dise nous suspendons de nouveau le processus au niveau des législatives et demain tu nous rassures qu'il y aura de l'argent. Et tous ces candidats, il y a aussi un problème d'intérêt. Un certain nombre de gens ont été déjà proclamés comme ayant été élus. Il y a des gens qui sont fait mandat à l'Assemblée nationale. Il y a aussi des députés ou des ministres qui ont été élus. Il y a aussi des citoyens ordinaires qui ont été déjà proclamés élus. Alors, nous risquons de nous retrouver avec une classe politique diversifiée aux intérêts divergents. Alors, moi, je dis, c'est tout à fait réel qu'il y ait un dialogue. Lorsque je réécoute le discours du président de la République intervenu le 20 décembre 2011, je suis en train de lire entre les lignes la volonté du dialogue, parce que, bon, il veut aussi mettre un bras, parce qu'on dit, lorsqu'on lance l'idée de la modernité, c'est qu'on quitte d'un état archaïque, d'un état classique, vers un état certainement plus moderne, plus meilleur. Et donc, il faut saisir l'opportunité, mais le risque que ça présente, certaines personnes risquent de contester cette initiative, parce que, dites-vous, moi j'ai déjà été élu à Kazumba, et puis vous me dites, non, on programme, et il y a toutes ces ressources matérielles, financières, psychologiques qui ont été mises dans la danse. Et donc, réfléchissons par deux fois s'il faut, oui ou non, il faut arrêter le processus actuel ou le valider. Encore que sur le plan de la loi, qui est censé valider le processus?
Merci Gaston Mouchid. Une proposition de dialoguer, c'est déjà positif selon Médard Mouyal Mangala. Nous savons que ce n'est pas la première fois que ces trois personnalités font des propositions au sujet des élections du 28 novembre dernier. Et seulement, aujourd'hui, la nouveauté, c'est que ces personnalités ne demandent pas d'emblée l'annulation de ces élections. Et ils pensent que c'est une décision qui pourrait découler des concertations à l'issue de cette table ronde.
Ça ne doit pas m'étonner si ça vient de ces trois personnalités. Vous venez de le dire, ça fait plusieurs fois qu'ils ont fait des déclarations. Le 14 décembre, ils ont dit qu'ils voulaient un gouvernement de transition. Aujourd'hui, ils nous parlent de dialogue. Même si ils ne demandent pas l'annulation, ils disent dans ce qu'ils appellent comme mes mots qu'ils veulent une table ronde au cours de laquelle on va analyser un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut valider les élections ou pas? Tout simplement parce qu'ils veulent le pouvoir. Et quand on a échoué aux élections, pour moi, il faut attendre 5 ans après pour pouvoir revenir aux affaires. Une place, 11 candidats à la présidentielle, il faut retenir qu'il n'y aura qu'un seul qui va gagner, pas tous 11. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on a pris l'habitude de commencer à contourner la légalité. Vous savez qu'il y a des élections qui ont été organisées, il y a un président qui est élu, il faut attendre. En 2016, vous repostulez, si vous avez la chance de gagner, vous gagnez ou pas. Il ne faut pas chercher à gagner à tout prix, c'est ça le problème. Que ce soit Kengo Andondo, 4%, Antipas Moussa Nyamisha, il y a combien, Adam Kouler, il y a combien. Ces élections-là, ce sont des élections. Nous sommes une jeune démocratie. Je ne veux pas dire que les élections se sont très bien passées dans ce pays. Il y a eu des irrégularités, mais les organisations ont dit, je parle du centre, que ces irrégularités-là n'étaient pas de l'ordre d'entacher la crédibilité des résultats. Et donc, il faudra que nous ayons l'habitude d'attendre le moment venu. Si ça n'a pas marché cette fois-ci, attendez. Est-ce que s'il faut réorganiser les élections, le Congo a de l'argent pour pouvoir organiser ces élections? Je crois que nous allons être obligés soit de nous faire assister et ce sera un pas en arrière.
Merci.
Or, nous sommes à l'organisation de deux scrutins, c'est déjà un pas. Nous devons aller de l'avant, corriger les erreurs en 2016, organiser bien les élections et continuer. C'est la démocratie et comme a dit tout à l'heure
Mesdames,
quel est le cadre juridique de cette concertation? Je trouve que s'il y a concertation, le président a dit qu'il est ouvert pour le dialogue.
Merci.
On va construire un gouvernement d'union nationale, tout le monde va y trouver son compte, il y aura des institutions, notamment le Sénat, le Parlement, c'est là, dans ces cadres-là, qu'il faut discuter pour pouvoir aller de l'avant.
Benoît Cambéré, Gaston Mouchid pense que si ces trois personnalités proposent le dialogue, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir. Ne pensez-vous pas qu'il y a aujourd'hui opportunité de dialoguer?
Absolument, parce qu'il y a problème. J'ai entendu tout à l'heure le confrère Mouchid parler de la chance de gagner. Qui a eu la chance de gagner? Si les élections s'étaient passées normalement, proprement, sans contestation, ça irait. La tricherie qui a caractérisé ces élections. Je suis surpris que maintenant, curieusement, on ne parle pas de présidentielle. tout le monde parle de législatives où il y a eu des tricheries. On pense que parce que le chef de l'État a prêté serment et que non, c'est maintenant devenu un sujet tabou. Mais non! Il y a eu des gens qui contestent encore l'élection présidentielle. Les mêmes trios, Moussa Nyamwisi, Adam Bombolé et Léon Kengwadondo, ont appelé à l'annulation des élections. Tout le monde l'a appris. L'Église catholique a parlé, les observateurs ont parlé. On a vu comment la communauté internationale a accueilli la prestation de serment du chef de l'État. Seul Mugabe est arrivé. Après, j'ai suivi au Libéria, quand Madame a prêté serment, il y a eu 30 chefs d'État. On a vu dans quelle réconciliation cela s'est fait. Mais ici, on l'a vu dans des bouderies. Ces élections ne se sont pas passées normalement pour qu'on dise non, celui qui a échoué peut attendre 2016. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Qu'on mette d'abord ces élections à l'épreuve de la vérité. Même ceux qui ont appelé à l'annulation. En principe, quelqu'un qui a gagné dans les normes ne devrait pas avoir peur qu'on reprenne les élections. Si réellement vous avez gagné, eh bien qu'on reprenne, vous aurez à gagner. Je ne pense pas qu'il y aura maintenant des centres de compilation, qu'il y aura des plis qui sont perdus, qu'il n'y aura pas des circonscriptions où il y a 140% des électeurs qui ont voté, alors qu'il y a des circonscriptions où il y a eu 46 ou 50% des... Mais non, ces élections ne se sont pas passées normalement. Et on ne peut pas faire comme si les choses se sont bien passées. Continuons, attendons 2016. Tout va bien, Madame la Marquise.
Et face à l'intransigeance, face à ce qu'on peut qualifier de jusqu'au boutisme des deux candidats, Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, parce que personne ne veut entendre parler d'une éventuelle annulation de ces élections. Face à cela, que faut-il faire?
Il faut dialoguer. Et avant le dialogue, qu'on aille à l'épreuve de la vérité. Qu'est-ce que les urnes ont donné réellement? C'est ça. Si on part de là, tout le reste va se décanter. Le trio qui a proposé déjà l'annulation, le trio qui propose le dialogue, tout le monde parle de dialogue. Pourquoi au Libéria on a dialogué? Pourquoi ici on ne veut pas dialoguer? Qu'est-ce qu'on cache? Est-ce que si on allait à l'épreuve de la vérité, qu'est-ce que les urnes ont dit réellement? Ce serait une avancée. Je regrette que les observateurs internationaux sont arrivés. Ils n'ont pas jeté un coup d'œil là où il fallait jeter un coup d'œil. On ne leur a pas donné. Ils sont revenus sur le serveur central. Rappelez-vous qu'à un moment, on a parlé du serveur central avant qu'on en arrive aux élections. Ils sont revenus sur le fichier électoral. À un moment, dans ce processus, on a parlé du fichier central. C'est là que je parle d'arrogance, on a balayé ça d'un revers de la main. Voilà, ça nous rattrape. Tout le monde revient là-dessus. Allons à l'épreuve de la vérité. Les urnes ont dit réellement quoi? Qui a triché? Et quelqu'un qui a triché, quel est le sort qu'on lui réserve? Et pas tout simplement dire non, laissons tomber, attendons 2016, ceux qui ont triché, bon, le bon Dieu va les... Non, il faudrait qu'on aille d'abord à l'épreuve de la vérité. Qu'est-ce que le peuple a dit? Qu'est-ce que les urnes ont dit réellement? Après ça, on peut discuter.
Merci Médard Mouyal Mangala. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC en sigle. Certains experts pensent que la démarche proposée par ces trois personnalités auraient été efficaces et réalistes s'il y avait eu en amont des contacts en coulisses avec des acteurs principaux avant de faire la déclaration à la presse.
Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, chez nous, il y a un problème. C'est comme si les Congolais ne peuvent pas s'asseoir sur des rites traditionnels, les mécanismes traditionnels de communication pour y soutirer l'intelligence qui existe pour pouvoir résoudre les problèmes. Ça veut dire aujourd'hui, là, on peut s'inspirer de la société traditionnelle africaine ou des sociétés traditionnelles congolaises. Il y a des capacités de dialoguer, il y a des capacités d'entrer en contact avec l'autre. Parce qu'effectivement, lorsque vous commencez l'initiative et que vous passez par les médias, vous étouffez l'initiative. Il devait y avoir des mécanismes de dialogue qui ne soient pas forcément médiatiques. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes face à plusieurs acteurs aux intérêts divergents. Et imaginez-vous un seul instant qu'un acteur qui considère que ce dialogue-là va l'empêcher de jouer un rôle quelconque et qu'il a une possibilité d'étouffer, il va le faire. Donc il ne suffit pas toujours d'être trop médiatique, mais il faut proposer des stratégies qui soient efficaces et cohérentes. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de m'interroger, mais pourquoi dans les sociétés traditionnelles congolaises, il n'y a pas de possibilité où les gens peuvent entrer en dialogue sans nécessairement passer par le média, sans nécessairement émettait toute la société pour dire on se rencontre quelque part. Où sont partis les sages congolais? Où sont partis les sages politiques dont on a parlé pour nous aider à résoudre la crise si la crise existe?
Merci. Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur de la radio-télévision Manika, émettant depuis la ville de Kolosi au Katanga. Quelle chance vous accordez à cette démarche?
Comme je l'ai dit, j'aimerais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Benoît tout à l'heure. La tricherie à la présidentielle, la vérité des urnes. Mais c'est quand même grave de parler déjà des tricheries si on n'en a pas le preuve. Et les désordres qu'il y a eu à Kananga, les désordres qu'il y a eu à Mbujimayi, les désordres qu'il y a eu à Kinshasa, vous pensez que c'est l'actuel président qui a commandité ça? Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des irrégularités, que ce soit du côté présidentiel ou du côté législatif. Moi, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que c'est irrégularité. Ici, on a parlé de vol de prix, là-bas, on a parlé de ceci, mais en somme, qui a la vérité des urnes? Pas Benoît, quand même. On a vu combien de députés fêtaient déjà parce qu'ils avaient gagné.
D'accord.
Donc, il ne faudrait pas, par rapport
d'accord
à un bureau, par rapport à une ville, pour multiplier déjà pour pouvoir obtenir les résultats et dire qu'on a gagné. Les élections, c'est secret. C'est pour ça qu'il faut attendre l'organisation des élections. Et comme il y a une institution qui fait ce travail et qui fasse ce travail convenablement. Aujourd'hui, la Cour suprême a légitimé ces élections à la présidentielle. Donc, il ne faudrait pas y revenir parce que vous parlez bien de revenir ou de refaire les élections. Je veux bien qu'on ait de l'argent. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent dans un futur très pour les organiser? Nous allons replonger dans un chaos qui ne dira pas son nom. Nous vivons à l'Est où il y a tout le temps des guerres et où on a vu des gens mourir à cause de l'instabilité de ce pays. Et nous ne sommes pas d'accord que le pays puisse tomber dans un chaos parce que tout simplement un groupe d'individus veut s'accaparer des pouvoirs.
Benoît Kamere, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Les Échos de la région des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Quelle chance vous accordez à cette démarche proposée par Léon Kengo Adondo, Adam Bombole et Moussa Nyamoussi?
Bon, pas beaucoup de chance malheureusement, parce qu'ils ont proposé déjà l'annulation. Cela n'a pas été fait. Beaucoup de gens proposent le dialogue. Cela n'a pas été fait. Je voudrais préciser quand même à propos de mon ami Mouchid, je suis de l'Est aussi. J'en viens, je sais ce que ça veut dire la guerre. J'ai vécu la guerre dans ma chair. Alors, il faudrait pas que pour des ambitions, on en arrive encore à des guerres, alors qu'on a, on prône la démocratie et on pense qu'on peut aller par les élections, mais il faut que ce soit des élections justes et ce n'est pas parce que la Cour suprême, on sait comment cette Cour suprême a été mise en place, on sait à quel moment elle a été mise en place, pendant que la campagne électorale a eu un mois de la campagne électorale, on l'a mise en place. C'est vrai, elle est allée prêter serment à Lubumbashi, tout ça ce sont les faits, mais il ne faut pas qu'on se voile la face, le pays est devant une crise. On ne peut pas faire la politique de l'autruche, il faut qu'on regarde en face. Les évêques catholiques ont proposé le dialogue, les trios Moussa, Adam Bombole proposent le dialogue, la communauté internationale appelle au dialogue. Qu'on ne se voile pas la face, ces élections ne se sont pas passées. Bon, c'est vrai, les preuves existent. On a des beaucoup de gens, partout où je suis passé, moi j'ai vu...
Mais qui détient ces preuves?
Ah! Si on met les preuves sur la table, on peut revenir à ce qui est arrivé. C'est ce que l'Église catholique défie quiconque qui voudrait qu'on mette les preuves sur la table et qu'on revienne sur ce qui s'est passé. Je crois que cela se passera.
Merci, c'est la fin de cette émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique et Alain Irongo à la réalisation, assisté de Samuel Kachak ainsi que des juniors Owawa, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Devant ce micro, Guy Maté, merci et à la prochaine.